Je travaille donc opération mobilisation aurait été content d'être là parce que chaque fois qu'il vient apporter un message, il a toujours une tonne de livres à présenter. Et donc, j'ai pas suivi son exemple, mais Katia l'a fait à ma place et je te remercie, Katia, d'avoir présenté ses livres. Alors, en prolongement du témoignage de Praise, j'aimerais qu'on prenne un texte dans Luc chapitre 13, versets 10 à 17. Luc chapitre 13, versets 10 à 17. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Il posa ses mains sur elle et immédiatement elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le chef de la synagogue fut fâché que Jésus ait fait cette guérison le jour du sabbat. S'adressant à la foule, il lui dit « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, mais pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit « Hypocrite que vous êtes, chacun de vous détache bien son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat, n'est-ce pas ? Et cette femme, qui fait partie des descendants d'Abraham et que Satan tenait en son pouvoir depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui parce que c'est le jour du sabbat ?» Cette réponse de Jésus remplit de confusion tous ceux qui avaient pris parti contre lui, tandis que le peuple était enthousiasmé de le voir accomplir tant d'œuvres merveilleuses. Alors ce qui est frappant avec Jésus, c'est qu'il ne se contentait pas d'enseigner. Il mettait en pratique, dans sa vie de tous les jours, l'enseignement qu'il donnait. Alors je ne sais pas ce qu'il enseignait à ce moment-là, mais en tout cas, il a vu là, dans l'auditoire de la synagogue, une femme qui avait manifestement un problème, et pas qu'un petit. C'est une grande leçon pour ceux qui enseignent, comme moi, mais aussi pour chacun de nous, de ne pas perdre le contact avec la réalité dans laquelle un grand nombre de personnes vivent. Une réalité qui est de moins en moins facile. La véritable théologie, ça ne consiste pas simplement à remplir sa tête de connaissances, mais à appliquer nos connaissances à la réalité du terrain. Il y a un grand pas entre le savoir et le voir et le faire. D'ailleurs, avant de monter au ciel, Jésus a dit à ses disciples, « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et il y a cette petite phrase qu'on oublie parfois. « Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Seigneur, aide-nous aujourd'hui à obéir à ce que nous savons de ta parole. Ça, c'est une prière. Cette histoire me fait penser à notre ancienne voisine qui était de plus en plus voûtée. Un jour, elle est tombée chez elle et ne pouvait plus se mettre debout. Heureusement, elle a pu accéder au téléphone pour nous joindre à un numéro que nous lui avions donné en cas d'urgence. Imaginez que vous passiez 18 ans de votre vie courbée. 18 ans. Pas 18 jours, pas 18 mois, 18 ans. Le seul univers que cette femme connaissait, c'était le bout de ses chaussures. Toute sa perspective était liée à quelques mètres devant elle. Le sol, comme seule vision. Peut-être avec un peu d'effort, elle pouvait croiser le regard de quelqu'un. Un regard de pitié, certainement, de mépris peut-être, d'indifférence. Mais le ciel, jamais. Trop haut pour elle. Trop haut. Il y a autour de nous des fils et des filles d'Abraham, qui sont debout en apparence, mais qui en fait sont courbés sous le poids de leurs péchés dans la position d'esclaves. Et Jésus en parle dans deux passages. dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 31, voilà ce qu'il dit. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » Nous, lui répondirent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres ? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Et dans la première épître de Jean, au chapitre 5, verset 19, il dit, nous savons que nous appartenons à Dieu alors que le monde entier est sous la coupe du diable. N'oublions pas cette réalité spirituelle. Satan, le diable, a un pouvoir principalement à cause du péché dans la vie de tout être humain. Beaucoup de gens proclament être libres, alors qu'en fait, ils sont esclaves de toutes sortes de vices, de passions, de comportements dont ils n'arrivent pas à se défaire. L'objectif du diable, c'est de garder ces personnes courbées et de les empêcher de voir la lumière. Paul dit aux Corinthiens, au chapitre 4, la deuxième épître, versets 3 et 4, il dit « Si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. » Cette femme voûtée, elle ne pouvait voir la lumière du soleil dans toute sa splendeur. Elle ne pouvait voir que quelques rayons. Mais ce qu'elle voyait surtout, c'était l'ombre de son corps voûté sur la terre. Et en parlant de la terre, Satan veut garder le regard des gens sur les choses terrestres. Il l'a fait au temps de Noé et il le fait encore aujourd'hui avec des millions de gens. Quand Jésus parle de la fin des temps, voilà ce qu'il dit en Matthieu 24, versets 37 à 39. Quant au jour, donc, lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants. Nous, on vient de marier notre quatrième. Les quatre sont mariés, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Alors le problème, ce n'est pas de manger, de boire, de marier ses enfants. Le problème, c'est d'être occupé à toutes ces choses-là, sauf à l'essentiel. C'est-à-dire, ne pense pas à la mort. Ne réfléchis pas au sens de la vie. N'écoute pas ta conscience. Ne te pose pas de questions sur le pourquoi et le comment des choses. Profites-en au maximum. Ta vie est courte. Comme disait un comique, pour essayer justement d'éluder ces questions-là, quand on lui demandait d'où il vient, qui il est et où il va, il disait « Je m'appelle Albert, je viens de chez moi et je vais à la boulangerie. » Mais ça suffit pas. Et moi, je ne peux m'empêcher de ressentir une grande tristesse face à ces passages que nous venons de lire. Je pense à des gens de ma famille. Je pense à des voisins. Je pense à des gens que je croise et avec qui je travaille et qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ma prière, c'est souvent, Seigneur, ouvre-leur les yeux comme tu m'as ouvert les yeux. Une autre tactique de l'ennemi, un peu à l'image de cette femme courbée, c'est d'enfermer les gens dans une sorte de fatalisme. C'est-à-dire, ta vie ne changera jamais. Tu resteras tel que tu es. Voilà ton destin. Ton avenir, c'est ça, le bout de tes chaussures et quelques mètres autour de toi. Imaginez cette femme qui, pendant 18 ans, s'est levée avec le rappel douloureux de son infirmité. 18 ans. Un grand nombre de femmes que nous visitons dans la rue ont comme seule perspective le trottoir, un petit bout de rue. Quand elles sont arrivées ici, elles rêvaient toutes d'un avenir meilleur, et maintenant, le trottoir est devenu leur foyer. Y a-t-il autre chose que cette vie? D'où me viendra le secours? Beaucoup de ces femmes sont bloquées dans une prison avec leurs pensées et leurs rêves. Il est dit en Luc, chapitre 13, verset 11, que cette femme était voûtée et ne pouvait absolument pas se redresser. Est-ce que vous avez essayé de redresser ce qui est courbé ou tordu, surtout si c'est du fer? Impossible. C'est aussi la constatation faite par Ecclésiaste. Le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 1, verset 14-15, il dit « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et je suis arrivé à la conclusion que tout est dérisoire, autant courir après le vent. Ce qui est tordu ne peut être redressé et ce qui manque ne peut être compté. » Et au chapitre 13, au verset 13, non, au chapitre 7, verset 13, il dit « Considère l'œuvre de Dieu. Qui donc pourra redresser ce qu'il a tordu ?» La Bible dit que sans Christ, nous sommes morts spirituellement. Est-ce que vous avez déjà essayé de réveiller un mort? Impossible. Mais aujourd'hui, à la question « Qui peut redresser ce qui est tordu ?» Jésus répond ce matin « Moi, je le peux. Moi, je le peux. » Et en effet, on le voit dans l'histoire de cette femme, il faut une intervention du Christ pour libérer cette femme. Tout comme il faut une intervention du Christ pour libérer les personnes avec qui nous sommes en contact et qui ne connaissent pas le Seigneur. Jésus a vu dans cette femme autre chose, quelque chose ou plutôt quelqu'un qui l'empêchait de pleinement apprécier ce statut de fille d'Abraham. Cette femme était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Ça veut dire que Jésus a discerné que derrière cette infirmité en particulier, et j'ajoute que ce n'est pas bien sûr toujours le cas, il y avait une activité satanique. Luc 13, verset 16. Cette femme qui fait partie des descendants d'Abraham et que Satan tenait en son pouvoir depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui parce que c'est le jour du sabbat? On sait que, d'une manière générale, le péché et la maladie, avec son cortège de souffrances, sont les conséquences de la chute. Mais ici, l'Écriture précise que dans ce cas précis, c'est un esprit qui l'en rend infirme. Et donc, c'est important de savoir contre quel ennemi nous luttons quand nous sommes en face de personnes courbées par la vie, pas simplement physiquement. Il est donc important de demander à Dieu qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne. Est-ce que c'est physique? Est-ce qu'elle a seulement besoin d'une aspirine? Est-ce que c'est psychique? Est-ce que c'est spirituel? Et une de mes prières souvent, c'est « Seigneur, éclaire-nous, montre-nous ce que nous devons faire dans cette situation ». Là, ce qui est formidable, c'est que Jésus l'appelle. Jésus l'appelle. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit « Femme ». Il l'appelle. Il lui parle. Il lui impose les mains. Et le résultat est fulgurant. Elle se met debout et loue Dieu. 18 ans à regarder le sol. Je suis sûr qu'elle savait le nombre des pavés du trottoir. Enfin, je ne sais pas s'il y avait des pavés de trottoir à cette époque. Désormais, c'est le ciel et les autres qui sont sa nouvelle vision. Quelle transformation! Et dans l'épître de Jean, au chapitre 3, verset 8, il est dit « Le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. » Et ce que j'aimerais vraiment vous dire ce matin, c'est que Dieu n'est pas un petit sauveur. Dieu est un Dieu de délivrance, de réelle délivrance. Ça, je peux l'affirmer parce que je l'ai vécu par expérience. On voit dans ce passage la puissance de la parole de Dieu dans la délivrance de cette femme. Il dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il prononce une parole, la même parole qui a créé les cieux et la terre. « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et puis, il y a le toucher de Dieu. Il ne se contente pas de lui parler à distance, il la touche. Sa présence fait toute la différence. Que nous le voulions ou pas, même si nous sommes dans le ministère à plein temps ou pas, nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. Et ce n'est seulement qu'avec les armes de Dieu que nous pourrons faire une différence. Et une de ces armes, c'est tout simplement lui, le Seigneur, à nos côtés. Nous ne sommes les sauveurs de personne. C'est lui le sauveur. Dieu, sa parole, sa présence puissante, son autorité, voilà notre équipement face à ce monde. Et quel équipement ? Et j'aimerais ajouter quelque chose d'important. Dieu nous a délégué son autorité. Moi, je suis toujours étonné. Moi qui suis un simple être humain de 1m73, 73 kilos, je crois, Dieu m'a confié, délégué une autorité. Pas simplement à moi, à chacun d'entre vous. Pour être sa voix. Et vous avez vu la puissance de la parole. Sa voix pour libérer. Sa voix pour secourir. Sa voix pour délivrer ceux que Dieu met sur notre chemin. Et Dieu nous a aussi délégué son autorité dans la prière. Au nom de Jésus, ce n'est pas une simple formule. Au nom de Jésus, ce n'est pas une formule. C'est une autorité qui nous est donnée. Est-ce qu'on en est conscient ce matin? De vraiment apprendre à prier avec autorité pour les personnes, pour qu'elles soient libérées, déliées, secourues. Et ma prière, c'est « Seigneur, aide-moi à prendre conscience de l'autorité qui m'a été donnée. » Donc la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un, de courber par le poids de la vie, rappelle-toi que personne, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Praise, personne n'est tombé trop bas que Dieu ne puisse relever. Moi, je me suis surpris des fois à dire, oh, de toute façon, cette personne, jamais, elle pourra venir au Seigneur. Mais ça, c'est humain. Mais qu'en est-il de toi ce matin? Parce que malheureusement, il faut le dire, nous pouvons être des filles et fils d'Abraham, mais courbés, nous aussi, pour toutes sortes de raisons. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien et qu'on est membre d'une église qu'on échappe. Et moi, j'ai remarqué dans ma propre vie, ainsi que dans la vie de beaucoup de frères et sœurs, que le diable veut nous enlever la joie. La joie d'être fils et fille de Dieu. La joie d'être justifié. La joie d'être sauvé. La joie d'être enfant de Dieu. La joie de savoir que si je meurs aujourd'hui, je vais dans la présence de Dieu et veut garder nos têtes baissées. On avait, dans l'église où j'étais avant, dans la région parisienne, on avait une dame qui venait des Antilles et elle commençait toujours sa prière en disant « Seigneur, merci de m'avoir sauvé ». Elle n'avait pas grand-chose, mais ça, elle le gardait précieusement. Et c'était ça qui faisait sa joie. Mais on peut aussi être courbé par le découragement, par les déceptions, par la fatigue, par la lassitude. Eh bien, Dieu est celui qui redresse ceux qui sont courbés aussi, de cette manière. Dans le psaume 145, verset 14, il est dit « L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent. Il relève tous ceux qui fléchissent. » Et il peut le faire pour toi ce matin, si tu es courbé par Dieu le sait quoi, comme il l'a fait avec cette femme. Il l'a appelée de nouveau. Il lui a parlé et il l'a touchée. Et peut-être que ce matin, tu as besoin de nouveau d'entendre ce que Jésus a dit à cette femme. Tu es une fille, tu es un fils d'Abraham. Arrête de te dévaloriser. Tu es une fille et un fils d'Abraham si tu as mis ta confiance dans le Christ. Peut-être avons-nous besoin d'être touchés à nouveau par le Seigneur. Et lui, il saura comment le faire, beaucoup mieux que moi. Et souvent, je dis, Seigneur, merci pour ma nouvelle identité, qui ne change pas, quelles que soient les circonstances. Vous savez, lorsque notre tête a besoin d'être courbée, c'est toujours pour une bonne raison. Jésus, en Luc 13, versets 14 et 15, s'adresse au chef de la synagogue en dénonçant son hypocrisie. En fait, le chef de la synagogue, il avait plus de compassion pour les animaux que pour les gens. Et en fait, plutôt que d'être debout, il aurait dû être courbé à cause de son attitude. Est-ce que nous avons aussi gardé l'humilité de nous courber devant Dieu lorsque nous l'avons offensé et lorsque nous avons offensé les autres? Mais là encore, il ne faut pas rester courbé. Dieu nous relève par le pardon de nos péchés. Et puis finalement, je m'adresse à l'Église, mais pas, je m'adresse pas à l'Église d'ici, je m'adresse à l'Église en général, parce que j'ai l'occasion de quand même côtoyer beaucoup d'Églises. J'aimerais maintenant, justement, j'espère avec un cœur courbé dans sa présence, souligner parfois un sujet de tristesse concernant l'Église de Jésus-Christ. Elle est parfois coupable par le fait qu'elle ignore l'autre. Elle peut être courbée d'une autre manière, c'est-à-dire elle peut marcher avec des œillères, avec son agenda, son programme, son projet, ce qui n'est pas mauvais. Hein. Si on a pu venir ici, c'est parce qu'il y avait un agenda. Mais ses préoccupations, parfois, peuvent être assez loin de celles du Christ. Et je m'explique. Comme je l'ai dit au début de ce message, la véritable théologie, c'est de s'approcher au plus près de la souffrance humaine. C'est pas d'en rester éloigné, ou de simplement regarder de loin, ou de baisser les bras en disant que de toute façon, rien ne va changer. Jésus enseigne, vous l'avez remarqué, il enseigne, mais il a vu aussi cette femme dans l'auditoire. Il a vu la souffrance humaine et décide d'y remédier. Et peut-être que cela a un petit peu dérangé dans son message. Hein. Il était peut-être en train d'enseigner et tout d'un coup, il voit cette femme. Et la question c'est, est-ce que nous sommes prêts à être dérangés dans notre confort? Est-ce que nous sommes prêts à vivre dans un chaos temporaire? Parce que si nous travaillons avec des personnes victimes de traumatismes ou de souffrances ou des personnes courbées par la vie, nous devons être prêts à ce que nos vies soient chaotiques. Et c'est plutôt donc la présence fidèle de Dieu que nous devons chercher. Et cette fidélité de Dieu, elle sera là au milieu du chaos, de la frustration, de l'angoisse, des échecs. Peut-être nous avons besoin ce matin que Dieu nous redresse de nos petites vies bien rangées. Hein? Métro, boulot, dodo, ou autre. Pour voir ce qui se passe autour de nous. Vous avez bien remarqué hein, que les gens qui sont dans les trams, dans les bus, regardent très peu ce qui se passe autour d'eux. Et ma prière, c'est souvent, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Utilise-moi comme tu veux. Utilise-moi quand tu veux. Alors je peux vous dire que quand on fait cette prière, c'est extrêmement dangereux, parce que notre vie, parfois, ne pourra plus être jamais la même. Mais moi, je préfère ça que de vivre une vie trop bien rangée. Donc j'aimerais simplement, en conclusion, dire que ce matin, Dieu veut te rappeler que tu es fils et fille d'Abraham. Et ça, ne le perds pas, ce statut. C'est un statut éternel qui t'a été donné à partir du moment où tu as mis ta confiance dans le Christ. Relève la tête à cause de ce statut. Tu n'as plus besoin de courber la tête, sauf quand c'est nécessaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et peut-être que ce matin aussi, Dieu t'appelle à sortir de ta vie bien planifiée, bien rangée, bien organisée, pour entrer dans une nouvelle vision des choses, peut-être une nouvelle étape que Dieu a pour toi. Tu vas voir alors, à ce moment-là, la gloire de Dieu comme jamais et expérimenter vraiment sa présence. N'aie pas peur, fais-lui confiance, il est ta sécurité. Laisse-toi surprendre Je dis souvent, Dieu est un Dieu de surprise, comme il a dû l'être pour cette femme. Et rappelle-toi que personne n'est tombé trop bas que Dieu ne puisse relever. Prions. Seigneur, merci de nous avoir laissé ta parole qui est tellement précieuse, avec de tels enseignements. Et Seigneur, ce matin, nous ne voudrions pas être des auditeurs oublieux. Et Seigneur, moi je fais appel à ton Saint-Esprit pour que tu utilises cette parole pour parler au cœur de chacun, pour parler à mon propre cœur. Et que Seigneur, nos vies soient vraiment des vies qui s'alignent avec ta volonté. Que Seigneur, nous puissions, comme l'a dit un frère avant que je sois ici, que nous puissions voir les choses et les personnes comme toi tu les vois. Et nous rappeler, Seigneur, que personne n'est tombé trop bas que tu ne puisses relever, et que ta grâce, justement, peut atteindre des personnes au plus bas tombées. Seigneur, si nous étions sauvés par nos œuvres, si nous étions sauvés par nos mérites, il y a beaucoup de gens, Seigneur, qui ne pourraient pas accéder au salut. Mais Seigneur, merci parce que toi, tu as rendu le salut possible à toutes les personnes qui crient vers toi, qui reconnaissent leur faute et se tournent vers toi. Et je prie, Seigneur, vraiment pour que tu conduises chacun ici. Peut-être il y a des personnes, Seigneur, qui sont à des carrefours dans leur vie. Peut-être il y a des personnes qui réfléchissent à quel métier ils vont prendre, quelles études ils vont faire, quelle nouvelle étape. Et je prie vraiment, Seigneur, que tu leur donnes la grâce de t'inclure dans leur projet et de te laisser transformer, guider leur vie, même si, Seigneur, ça peut être chaotique. Mais Seigneur, nous savons qu'il n'y a rien de plus précieux que d'être au centre de ta volonté. Et je te remercie pour cette Église, et je te prie de la bénir, de bénir chacun, de bénir les responsables, et de fortifier aussi cette équipe, Seigneur, qui a commencé à visiter ces femmes dans la rue. Et je te bénis, Seigneur, vraiment pour cette histoire, et je te remercie pour cette femme qui n'est plus courbée aujourd'hui, enfin, tout un, qui n'était pas courbé à cette époque, qui a pu regarder vers le haut. Et je prie, Seigneur, que tu nous délivres, que tu nous redonnes la joie, si nous l'avons perdue, la joie du salut, la joie de ta présence, la joie d'être enfant de Dieu, la joie de savoir qu'un jour nous serons dans ta présence, la joie de savoir que tu nous utilises pour changer des destinées éternelles. C'est mieux que de travailler à n'importe quelle entreprise, Seigneur, parce que c'est vraiment une vision éternelle. Merci Seigneur encore pour ce moment ensemble. Amen.